L'âge du bronze dont je vais vous parler correspond au développement dans le monde égéen de deux civilisations palatiales. D'une part, la civilisation qu'on appelle des seconds palais dans la Crète minoenne, et d'autre part, celle des royaumes mycéniens sur le continent. Il s'agit dans les deux cas de sociétés qui ont produit une riche culture matérielle et de nombreux objets à décors figurés. Je vous montre là quelques exemples de ces figurations humaines, avec donc ici surtout des objets issus de l'environnement palatial. Et pourtant, la documentation sur les jeux pour ces périodes est, à première vue au moins, plutôt décevante. Les indices iconographiques et matériels semblent en effet rarement se rapporter à cette sphère d'activité. Alors, il y a quelques représentations d'enfants qui viennent plutôt de la sphère minoenne, donc du bronze, ce qu'on appelle l'âge du bronze récent 1, de très rares images dans le monde mycénien, mais ces images ne montrent pratiquement jamais des enfants jouant. Hein, il y a peut-être un cas ici avec cette figurine en ivoire qui vient de Crète, mais l'enfant a les bras cassés, donc on n'a pas non plus là, on ne peut pas restituer de contexte. Les textes déchiffrés pour cette période, qui étaient inscrits sur des tablettes mycéniennes au XIIIe siècle avant notre ère, ne sont que des enregistrements administratifs et comptables qui ne nous renseignent en rien sur les pratiques ludiques. Donc je vais moi aussi vous inviter à partager plutôt mes réflexions, mes interrogations autour de certains artefacts plutôt que des résultats bien établis, hein, puisque pour ces périodes-là, en général, il n'y en a pas. Alors, la méthode d'approche, on en a déjà parlé, elle est fondamentale. Pour identifier des objets comme des jouets, cela exige de prendre en considération leurs caractéristiques morphologiques, leurs dimensions, ainsi que leur contexte de découverte. Mais même lorsque l'on dispose de tous ces éléments, il n'est pas toujours possible, on l'a vu, de définir la fonction des vestiges, qui est souvent discutée entre partisans d'une orientation religieuse et partisans d'usage plutôt ludique, sans qu'un indice décisif permette de trancher. Et donc cela relève aussi de certains partis pris, on pourrait dire presque idéologique. Cela soulève donc deux questions, au moins. D'une part, celle de la place des jeux dans la culture matérielle de cette période, au moins parmi les objets qui nous sont parvenus, une faible part, puisque dans le monde égéen, tous les matériaux organiques périssables ont disparu. Mais on doit aussi se demander quelle place les archéologues sont-ils prêts à accorder aux jeux à côté du domaine religieux qui est traditionnellement privilégié comme cadre d'analyse pour ces périodes, en particulier pour des objets dont le sens n'est pas évident. Je vais commencer par présenter quelques objets plutôt en lien avec le monde de l'enfance, et on se tournera ensuite vers d'autres types de jeux qui semblent avoir été plus largement pratiqués. Un cas d'école pour cette période, c'est celui des figurines mycéniennes, qui est depuis longtemps débattu, mais pour lequel l'interprétation a évolué depuis le début du XXe siècle, puisque ce sont des objets qui ont, dans un premier temps, plutôt été considérés comme des jouets d'enfants, alors qu'elles apparaissent plutôt aujourd'hui dans la bibliographie comme des objets rituels. Et donc là, je voudrais un peu reprendre le cheminement de ces interprétations, donc avec plutôt un point de vue historiographique. Alors, ces figurines dont vous voyez là quelques exemplaires ont surtout été produites au XIVe et XIIIe siècle. On en trouve jusqu'au XIe siècle. Les plus nombreuses sont des figurines anthropomorphes, dont tous les exemplaires connus dans le monde mycénien sont féminins. Ce qui est un phénomène récurrent pour la petite plastique de terre cuite dans le monde grec. Chaque type est identifié par une lettre de l'alphabet grec. Les figurines dites en phi, qui sont les plus anciennes et qui ont les mains ramenées sur le ventre. Les figurines en tau, qui ont les mains croisées sur la poitrine et ensuite schématisées par des moignons. Et les plus tardives sont les figurines en phi, hein, mais elles sont en partie produites de façon contemporaine. Il y a également des figurines zoomorphes qui sont plus rares et qui sont principalement des bovidés, même si on trouve quelques chevaux, notamment avec des cavaliers, et plus rarement des figurines qu'on dit complexes ou des groupes, des figurines portant un enfant, des figurines assises, trônantes, dit-on, et des figurines triples. Toutes ces figurines étaient modelées, façonnées assez simplement en argile, et peintes de lignes droites et ondulées. Elles sont toutes de taille assez réduite, avec une hauteur qui est généralement comprise entre 8 et 12 cm. Et il s'agit d'une production très homogène. Elles sont extrêmement nombreuses, on en connaît des milliers d'exemplaires. C'est une production de masse qui est standardisée à l'échelle de l'ensemble du monde égéen. Plusieurs sont quasiment identiques. Et donc, c'est une production que l'on peut comparer à celle de la poterie pendant cette période. Elles sont d'ailleurs fabriquées avec le même type d'argile que les vases et probablement dans les mêmes ateliers. Alors, pourquoi ces figurines ont-elles été dans un premier temps considérées comme de possibles jouets ou poupées ? Cela provient des premières fouilles dans la première partie du XXe siècle qui a d'abord porté sur les tombes mycéniennes et dans les grandes nécropoles de tombes à chambres mycéniennes qui ont alors été fouillées, les archéologues ont assez tôt mis en évidence une association préférentielle des figurines aux sépultures d'enfants. Et c'est le cas de façon assurée, au moins dans certaines nécropoles. Donc, je vous montre ici une image d'une tombe de la nécropole d'Éleusis, où on voit donc un petit enfant auprès duquel ont été placées deux figurines en fille et puis ici une troisième en tau. Il ne s'agit pas d'un dépôt conventionnel, on n'en trouve que dans environ 15% des tombes d'enfants. Des enfants qui sont en général compris entre 0 et 6 ans, enfin dont l'âge est compris entre 0 et 6 ans. Il y a quelques autres exemples qui sont assez parlants. Ici, une figurine en psy près de cet enfant dans le cimetière de l'Agora d'Athènes. Et on continue de trouver dans les tombes d'enfants des figurines de ce type. Alors, malgré ces cas et ces statistiques, l'association exclusive aux enfants n'est pas toujours claire. Cela provient du fait que les tombes mycéniennes sont des tombes à inhumation collective qui ont été utilisées sur de longues périodes et dans lesquelles on repoussait les ossements à une extrémité de la tombe. Vous voyez ici donc des ossuaires, et les archéologues ont eu tendance à associer systématiquement, donc là vous voyez sur la gauche en bleu un crâne d'enfant qui a été découvert dans une tombe, auquel on a de façon un peu unilatérale attribué les figurines qui avaient également été retrouvées dans la tombe. Il y a par ailleurs quelques cas dans lesquels les figurines étaient clairement associées à la sépulture d'un adulte. Ces figurines associées aux enfants sont des figurines féminines. Concernant les figurines zoomorphes, elles sont extrêmement rares dans les tombes d'enfants, et pourtant, ce sont celles qui ont été, de la façon la plus systématique, interprétées comme de possibles jouets, du fait de leur aspect qui les rapproche de jouets plus tardifs ou de jouets contemporains. Donc là, il est clair qu'il y a eu un a priori des archéologues sur le fait que là, c'était considéré comme une sorte d'évidence. Donc voilà le mobilier d'une tombe à chambre que l'on a attribué à un enfant, parce qu'il y a ces vases qu'on appelle aussi des biberons, donc ils n'ont probablement pas non plus servi de biberons. Mais on voit bien donc un raisonnement un peu circulaire qui s'est mis en place. Le seul cas in situ de figurines zoomorphes que j'ai trouvé accompagne un sujet adulte. Donc, l'interprétation de ces figurines a évolué lorsqu'on s'est penché surtout sur d'autres contextes, notamment sur les contextes d'habitat, puisque on s'est rendu compte, mais assez tardivement, que ces figurines étaient beaucoup plus nombreuses dans l'habitat que dans les tombes. Et il y a eu des études contextuelles assez précises qui ont été menées, notamment par Mélissa Wetters dans le cadre de sa thèse qui portait sur la répartition des figurines dans l'habitat de Tirynthe. Donc là, vous voyez de façon un petit peu schématique, c'est peut-être pas très clair, hein, la localisation des figurines qui, dans l'habitat, se trouvaient très généralement en position secondaire, brisée, fragmentaire, dans des types d'espaces très divers, donc des pièces de fonctions variées, domestiques, artisanales, dans des remblais, dans des dépotoirs, on en trouve absolument un peu partout. Mélissa Wetters a montré que, concernant les figurines animales, elles étaient plus souvent placées dans des lieux de passage, près de seuils, dans les secteurs d'escaliers. Et donc son hypothèse est que ces figurines zoomorphes auraient plutôt eu un rôle protecteur de ces espaces, donc un rôle, une fonction apotropaïque ou prophylactique, qu'elle associe aussi aux espaces artisanaux. Donc c'est une fonction possible de ces figurines dans l'habitat. Il y a eu d'autres découvertes qui ont clairement montré que ces figurines avaient pu être déposées dans des sanctuaires comme ex voto. C'est la seule interprétation que l'on peut faire de certains amas de figurines, hein, notamment ici à Messana, près d'une banquette dans une pièce. 150 figurines zoomorphes ont été découvertes. Des figurines zoomorphes simples, des chars comme celui-ci. Ici, vous voyez un cavalier. Et ces groupes en bas à gauche qu'on appelle le bœuf et laboureur. Et c'est intéressant de voir la présence de ces figurines dans ce qui est interprété comme un sanctuaire, puisque ce sont celles qui sont précisément absentes des tombes d'enfants. Et donc on peut se demander si ces figurines ne constituent pas plutôt la marque visuelle d'une classe sociale ou l'attribut de divinité plutôt que des jouets d'imitation. Évidemment, on ne peut pas exclure que ces figurines ont été déposées là comme des jouets marquant la sortie de l'enfance, si cette pratique, alors déjà, on l'a vu, pas très bien attestée dans la Grèce archaïque et classique, existait déjà aux périodes plus anciennes. Hein, en revanche, les figurines féminines sont plus mal attestées dans ce type de dépôt votif. Autre argument qui me paraît aller un peu à l'encontre de l'interprétation de poupées, c'est la forme de certaines de ces figurines, notamment les figurines en psy, qui doit vraisemblablement être corrélée aux statuettes aux bras levés, qui sont plus anciennes, qui proviennent de la Crète minoenne, et dont la nature religieuse semble bien avérée. Dans les tombes d'enfants, on pourrait donc plutôt les interpréter, les comprendre comme des divinités protectrices de l'enfance. Donc ces figurines mycéniennes sont aujourd'hui le plus souvent restituées dans le cadre de rituels populaires et domestiques. Les discussions se poursuivent néanmoins. Et donc, pour faire le bilan de ces évolutions dans les interprétations, je voudrais quand même souligner que ces figurines répondent à plusieurs critères objectifs d'interprétation de poupées. Leur dimension et leur forme sont propices à la manipulation par des mains enfantines. Les sujets représentés sont issus de réalités quotidiennes, miniaturisées. La grande majorité des figurines anthropomorphes est féminine. Les figurines zoomorphes représentent des animaux domestiques et les autres représentent des moyens de transport familiers. Leur contexte de découverte correspond à des lieux de vie, à des espaces dans lesquels les enfants ont pu jouer, à des tombes le plus souvent d'enfants, dans lesquelles les poupées auraient pu devenir un objet d'accompagnement ou un objet votif. Alors, j'ai montré quels étaient les critères en faveur d'un usage rituel, prophylactique ou religieux. Et il me semble qu'il y a un dernier critère qui a rarement été mis en évidence dans la bibliographie et qui me paraît peu cohérent avec une destination ludique. C'est cette fabrication massive de ces figurines, une fabrication normalisée, standardisée, qui me semble signaler une attitude qui serait relativement moderne vis-à-vis de l'enfance et une attention surprenante dans le cadre de cette société mycénienne qui ne leur accorde par ailleurs que très peu de place dans l'iconographie. Dans l'état actuel des données, il me semble qu'on peut donc conclure à un usage possible des figurines mycéniennes comme poupées ou jouets, mais il ne s'agit vraisemblablement pas d'objets fabriqués spécifiquement pour un usage ludique, plutôt d'objets polysémiques qui pouvaient être chargés d'un sens différent selon le lieu, l'utilisateur. Et je crois que la fonction apotropaïque est la seule, avec celle de jouer, à laquelle elle peut évidemment se combiner, à justifier leur dépôt préférentiel auprès des enfants morts. Un questionnement assez similaire peut être développé dans le cas des récipients miniatures que nous avons déjà évoqué ce matin. Bon, là, je vais passer très très vite parce que ce sont des objets sur lesquels il y a eu peu de recherches vraiment approfondies. C'est une catégorie de vases qui est assez fréquente dans l'habitat en particulier. Il s'agit de vases non tournés qui sont modelés principalement des cruches et des bols comme ceux que vous voyez en bas, avec un décor qui les rapproche, vous le voyez, davantage des figurines, hein, avec ces lignes ondulées, que de la poterie de cette période. Ils ont une très faible capacité, donc a priori pas, ils ne sont pas fonctionnels, et en contexte funéraire, on les trouve surtout dans les tombes d'immatures. Ils n'apparaissent pas dans les contextes de sanctuaires. Donc ce ne sont pas, là, assez clairement, ce ne sont pas des objets votifs. Donc ça suggère que tout ou partie de ces formes a pu faire partie d'éléments de jeu, de sorte de dînette pour les enfants. Ce que l'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure ils ont aussi pu être fabriqués par les enfants. Alors il y a une autre catégorie d'objets un petit peu différente. Les coquillages qui ont de longue date été associés aux sépultures enfantines, alors qu'en fait ils sont assez rares dans les tombes d'enfants, mais il y a une nécropole dans laquelle leur présence est intéressante, et c'est Spiros Iacovidis qui avait fouillé cette nécropole de Perati qui a pointé du doigt leur présence auprès d'enfants. Hein, donc, mais là, on retrouve ce raisonnement assez circulaire. Le plus souvent, les ossements étaient très mal conservés. Il y a des tombes dans lesquelles on trouve des figurines zoomorphes et 4, 5, donc souvent des petits lots de coquillages. C'est quand même loin d'être assuré. Donc, ce type de coquillage, hein, de l'espèce Conus, est une espèce qui était consommée pendant cette période, mais le fait qu'ils aient été déposés en faible nombre dans les tombes ne paraît pas résulter d'offrandes alimentaires ou de repas. En revanche, Spiros Iacovidis avait mis en évidence leur forme régulière et le fait qu'ils étaient souvent travaillés avec une face lissée. Et donc, il avait proposé d'en faire des éléments de jeu en les rapprochant des astragales qui sont beaucoup mieux attestées au premier millénaire en Grèce. Par ailleurs, quelques exemples parmi ces cônes avaient été remplis de plomb. Et c'est aussi le cas de quelques exemplaires parmi un grand lot de cônes qui proviennent de ce qu'on appelle le centre cultuel de Mycène et de quelques autres coquillages dans des tombes. L'adjonction de plomb aurait pu les rendre plus stables. Et là aussi, c'est une hypothèse qui se conformerait assez bien à l'usage comme les astragales, puisque c'est quelque chose qui existait aussi dans le jeu des osselets. Les contextes funéraires et religieux des cônes mycéniens sont similaires à ceux des osselets, qui étaient consacrés dans des sanctuaires ou placés dans des tombes. Donc il y a effectivement là peut-être quelque chose à creuser. Donc moi j'ai pas du tout essayé, je n'ai pas vu ces objets, mais disons que la question est posée. Concernant les astragales eux-mêmes, le jeu n'était visiblement pas répandu dans le monde égéen à l'âge du bronze. L'un des seuls exemplaires connus provient d'une tombe crétoise de la période mycénienne, mais c'est un exemple intéressant parce que c'est un astragale qui est percé avec donc des valeurs numériques qui montrent que l'astragale avait effectivement la valeur de D. En ce qui concerne la culture matérielle relative aux jeux d'enfants, la documentation est donc assez pauvre, probablement parce que nous n'avons pas les objets en matériaux périssables. On trouve des témoignages iconographiques légèrement antérieurs, donc dans la sphère minoenne, sur des activités ludiques On a parlé tout à l'heure des jeux immatériels, donc des activités ludiques qui ne nécessitaient pas d'accessoires. Les mieux attestés sont du domaine du sport, avec la boxe telle que vous la voyez pratiquée ici par deux garçons peints sur une fresque du site d'Akrotiri, qui pourrait s'inscrire dans un jeu quotidien comme dans un rituel. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas exclusivement d'un jeu d'enfant, puisqu'on connaît quelques autres représentations de jeunes hommes boxant, notamment sur ce riton qu'on appelle le riton des boxeurs, hein, qui montre d'autres exemples. Dans le monde minoen, il y a un jeu qui a peut-être laissé des traces assez abondantes, mais qui, là encore, a donné lieu à des débats assez vifs entre partisans de l'usage ludique et ceux qui y voient un accessoire religieux, et ce depuis les premières découvertes à Knossos par Evans. Il s'agit de dalles de pierre creusées de petites cupules qui forment généralement un cercle. Hein, donc là, on passe en Crète, principalement dans les villes palatiales, mais pas seulement. On trouve aussi des dalles qui portent plus rarement des lignes parallèles de cupules. Et donc, on en a trouvé des dizaines dans les villes de Crète. Elles sont parfois interprétées comme des kernoi, donc un kernos ou une table à offrandes dans laquelle on aurait pu déposer de toutes petites quantités d'offrandes. La plupart de ces objets proviennent d'espaces ouverts ou publics. Ce sont des objets qui sont de factures très diverses. Donc là, vous voyez déjà des exemplaires assez différents les uns des autres, mais pour prendre un peu les deux cas extrêmes, voilà l'exemplaire le plus monumental et le plus soigné qui provient du palais de Malia. Et à proximité immédiate, dans le dallage devant le palais, étaient creusées ces cupules formant un cercle à peine ébauché. Le nombre de cavités varie également. On en trouve entre 10 et 20 le plus souvent. Outre donc ces aspects et la modestie de beaucoup d'exemplaires, un autre argument en faveur du jeu est la très faible profondeur des cupules de plusieurs exemplaires qui ne pouvaient recevoir aucune offrande alimentaire, ni solide ni liquide, alors que la simple marque permet de jouer. On a très rarement identifié des objets qui auraient pu servir de jetons à proximité, ce qui aurait pu accréditer l'hypothèse. Mais nous avons découvert, donc dans un secteur de fouilles que je dirige à Malia, une table de marbre, enfin une dalle de marbre plus exactement, dans un bâtiment, à proximité de mortiers, dans une pièce visiblement dont la fonction était la préparation alimentaire. Il y a également un foyer. Je crois qu'il pouvait s'agir d'une table de travail qui pouvait être transformée en plateau de jeu. Les cupules sont à peine marquées, à tel point, vous le voyez ici sur les premières photos, nous n'avions pas identifié cette dalle comme une pierre à cupules parce que avant qu'il y ait une lumière rasante, en fait, elle n'était pas visible. Il est évident que des cailloux, des graines, non identifiables comme des artefacts lors de la fouille, pouvaient être utilisés comme jetons. Mais dans le même bâtiment, on trouve aussi, donc voilà une restitution de cet espace, il y avait probablement aussi une plateforme, on trouve de façon assez diffuse, dispersée, des objets qui sont très rarement publiés dans les publications de cette période, mais qui peuvent être identifiés comme d'éventuels jetons de jeu, donc ici en os. Donc là, il y a des objets de pierre ébauchés, bon, qui pourraient être autre chose, mais on a aussi ces tessons de céramique donc, qui ont été découpés. Il y aurait donc eu à Malia, comme dans d'autres villes minoennes, des tables de jeu dans divers espaces privés ou publics, utilisés par différentes catégories sociales. Et on connaît notamment, pour prendre les catégories sociales les plus élevées, pour le palais de Knossos, ce qui a été identifié comme un plateau de jeu extrêmement luxueux, qui était associé à des pions coniques en ivoire, attestant la pratique des jeux de table dans l'élite palatiale. Et il y a quelques sceaux qui pourraient montrer des hommes jouant J'en ai trouvé un autre qui pourrait se rapporter à ces mêmes pratiques. Je crois que là, il y a une enquête qui reste encore à approfondir. Alors, pour conclure, il demeure évidemment très difficile de reconstituer les jeux, en particulier les jeux des enfants, hein, dont, qui restent une catégorie très ambiguë dans les vestiges, même si les analyses contextuelles permettent de progresser, hein, notamment pour remettre en compte, en question plutôt, la fonction de jouer des figurines mycéniennes. L'observation minutieuse d'autres objets ouvre des perspectives sur d'autres types de jeux pratiqués par les Égéens, en particulier dans la Crète de l'âge du bronze. Je crois qu'on peut commencer à restituer une place importante au jeu dans les activités quotidiennes, dans des formes plus prégnantes que ceux que l'on présentait généralement, et sans que cela concurrence la pratique religieuse, puisque ce sont évidemment deux facettes complémentaires de la vie dans ces sociétés. Je vous remercie.